cours de philosophie du vivant à Saint-Jodard le 16 février 1995, exposé de biologie par les frères Olivier de la Croix et Alexandre.
Mon père, vous nous avez demandé de faire une description très sommaire du développement embryonnaire de l'être humain, de la fécondation jusqu'à la naissance. Alors nous allons essayer de résumer 9 mois ou 38 semaines de grossesse en 3 quarts d'heure. Ce qui ne va peut-être pas être vraiment... Enfin... D'accord. Alors pour des raisons évidentes que vous comprendrez, nous avons été obligés de passer sous silence un certain nombre de détails qui peuvent avoir leur importance. Et alors donc on distingue en gros trois grandes phases dans le développement de l'être humain. Tout d'abord, les deux premières semaines qui sont donc de la fécondation jusqu'à la phase qu'on appelle disque embryonnaire, c'est-à-dire on aura deux feuillets cellulaires bien distincts. Ensuite, la phase embryonnaire qui va de la troisième semaine à la huitième semaine, puis la phase fœtale qui ira de la neuvième à la 38e semaine, en prenant comme instant zéro le moment de la fécondation, bien sûr. Ensuite, nous verrons brièvement des cas un petit peu particuliers au niveau des jumeaux et des grossesses aboutissant à parfois des monstres ou enfin des cas un petit peu dramatiques par certains côtés, je dirais, et dus à des effets tératogènes ou à des anomalies chromosomiques. Voilà. Alors, effets tératogènes, c'est des effets dus à des agents extérieurs qui peuvent être des maladies, qui peuvent être des radiations chimiques, qui peuvent être des radiations ionisantes, pardon, des produits chimiques, enfin, etc. Et anomalie chromosomique, c'est au niveau de la constitution de la cellule, il y a des chromosomes dans la cellule qui portent le patrimoine génétique, ou le chiffre biologique, si vous préférez. Et alors, au niveau de la différenciation des gamètes sexuelles, enfin des cellules sexuelles, spermatozoïdes et ovocytes, il peut y avoir des anomalies, et on aurait des anomalies, donc, des chromosomes sexuels, essentiellement. Enfin, Olivier va vous préciser ça.
Bon, le corps humain est constitué de milliards de cellules. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque cellule du corps humain contient la même information chromosomique. C'est-à-dire qu'en fait, elles contiennent toutes les mêmes gènes, même si elles ont des fonctions différentes. C'est-à-dire qu'une cellule du cœur ou une cellule du foie va utiliser en commun 3% d'informations génétiques, mais qu'en même temps, elles ont toutes la même potentialité. Alors, une cellule, schématiquement, c'est comme, on peut le représenter comme ça. Elle possède un noyau, et c'est à l'intérieur de ce noyau qu'on a les chromosomes. Alors, chez l'homme, il y a 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Il y a sur ces 46 chromosomes, une paire de chromosomes qu'on appelle sexuels. Alors, on les note X et Y. La femme possède deux chromosomes X, et l'homme, un chromosome X et un chromosome Y. Alors, pour vous donner une idée de grandeur, le chromosome Y mesure 1,5 micron. Alors, un micron, c'est un millionième de mètre. Donc, sur ces chromosomes, il y a ce qu'on appelle des gènes. Le gène, c'est une information héréditaire qui va s'exprimer ou non. Par exemple, un gène, ça gouverne la couleur de vos yeux bleus, les yeux marrons, si vous êtes capable de rouler la langue comme ça. C'est un gène. Alors, oui. Donc c'est le gène qui commande tous ces caractères. Alors, il y a des dizaines de milliers de gènes dans l'homme. Aujourd'hui, on en a découvert à peu près 70 sur le chromosome X. Et alors, sur le chromosome Y, donc un chromosome, c'est On peut le dessiner à peu près comme ça, schématiquement. Et là, en 90, on a découvert, par exemple, le gène qui commande le caractère masculin, donc qu'on appelle SRY, sur le chromosome donc Y. Alors, le chiffre biologique, qu'est-ce que c'est exactement? C'est donc l'ensemble de tous les gènes. Scientifiquement, on l'appelle le génome. Alors, il va être transmis à moitié par le père et à moitié par la mère. Mais juste avant, en fait, d'être transmis dans l'œuf, il va y avoir ce qu'on appelle des recombinaisons génétiques, c'est-à-dire que des gènes, les chromosomes qui sont par paire, il va y avoir des échanges. Mais, en fait, le chiffre biologique, c'est seulement biologiquement le fondement de l'individuation. C'est-à-dire que, par exemple, le chiffre biologique ne va pas déterminer la place des veines. Ça, c'est le phénomène de l'épigénèse. C'est-à-dire que le développement de l'embryon, le développement de l'être humain, il se fait aussi en fonction du milieu environnemental. Donc voilà. Alors, on va passer maintenant à la fécondation en elle-même. Alors, la fécondation, c'est quoi? Ça va être la rencontre entre un spermatozoïde, donc une cellule mâle, et un ovule, la cellule femelle. Donc chacun des deux, le spermatozoïde et l'ovule, ne contiennent que 23 chromosomes. L'association des deux permettra de retrouver le nombre de chromosomes caractéristiques de l'espèce humaine, à savoir 46. On l'a vu, l'homme a un chromosome X et un chromosome Y. Donc le spermatozoïde aura soit un chromosome X, soit un chromosome Y, donc déterminera le sexe de l'embryon. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a 500 millions de spermatozoïdes environ qui sont dans les voies génitales de la femme et qui vont se déplacer jusqu'à l'ovule. L'ovule, en fait, lui reste sur place. Alors, donc, schématiquement. Donc, c'est l'utérus de la femme. Les spermatozoïdes vont se déplacer comme ça, si l'ovule est ici, pour féconder l'ovule à cet endroit-là. Alors, pendant tout ce trajet, le spermatozoïde va acquérir un pouvoir fécondant. C'est ce qu'on appelle la capacitation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les voies génitales de la femme, le spermatozoïde peut survivre environ 4 jours et un ovule non fécondé 24 heures. Au moment de la fécondation, il n'y a plus que 200 spermatozoïdes qui entourent l'ovule. Et un seul va le féconder. Alors, un seul va le féconder et juste au moment où le spermatozoïde pénètre dans l'ovule, l'ovule devient alors réfractaire à la pénétration des autres spermatozoïdes pour éviter d'avoir, par exemple, deux spermatozoïdes qui féconderaient l'ovule et d'avoir un homme ou une femme à 69 chromosomes. Alors, au moment de la fécondation, l'œuf va commencer à se segmenter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc on a une cellule à 46 chromosomes et de cette cellule, on va avoir un phénomène de division et on va avoir deux cellules. Mais ces deux cellules auront 46 chromosomes chacune. Alors, pendant que l'œuf se divise, en même temps, il va commencer à se déplacer. Alors, il est libre et il va venir dans l'utérus de la femme. Alors, un œuf mesure 150 microns. Pendant 4 ou 5 jours, il va continuer à se segmenter jusqu'à ce qu'il ait 16 cellules. Au moment où l'œuf a 16 cellules, il a l'aspect d'une petite mûre. Alors on lui donne le terme de morula. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'œuf n'a pas changé de taille. Donc c'est les cellules qui deviennent de plus en plus petites. À ce moment-là, les cellules sont on dit que les cellules sont totipotentes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque cellule peut en théorie donner un embryon. Alors, quand l'œuf possède 16 cellules, il y a la cavité utérine qui va sécréter un liquide qui va se mettre entre les cellules. Alors, vous avez le schéma, normalement. Et donc, il va y avoir une différenciation, en fait. Donc, le liquide va s'insérer. On va arriver au stade blastocyste, qui correspond au cinquième jour, là, que vous avez sur vos feuilles. Et les cellules vont se différencier. Il va y avoir ce qu'on appelle le bouton embryonnaire, qui va donner naissance à l'embryon lui-même. Et ce qui est marqué le trophoblaste, qui fait le tour, ça va être, en fait, ce qui va donner naissance au placenta, qui est un lieu d'échange entre la mère et l'embryon. Ce stade va durer jusqu'à ce que le bouton embryonnaire comporte 64 cellules. Pourquoi 64 cellules ? Parce que à ce moment-là, chaque cellule peut encore, en théorie, donner un embryon. Après 64 cellules, ce n'est plus le cas. Alors, l'embryon va s'implanter dans l'utérus. Alors, sous l'effet de mécanismes hormonaux, les parois de l'utérus vont se vasculariser, c'est-à-dire qu'il va y avoir de nombreux vaisseaux sanguins, et elles vont aussi s'épaissir pour permettre à l'embryon de s'implanter et d'avoir des conditions optimales de développement et de nutrition. Donc voilà. Alors, au cas où l'embryon, où il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas donc d'embryon, qu'est-ce qui se passe ? Ben, en fait, c'est le phénomène de la menstruation. Donc, tous les 28 jours, la femme est prête à recevoir un ovule, enfin, à ce que produit un ovule qui peut être fécondé. Alors, sur 100 tentatives de fécondation, il y en a 15% d'ovules qui ne sont pas fécondés. Donc, il en reste 85. Sur les 85, il y en a encore 15% qui n'arrivent pas à s'implanter. Il en reste 70. Sur les 70, il y en a 58% qui vont survivre jusqu'à la deuxième semaine. Alors ça en fait 41. Et sur ces 41, il y en a 16% d'anormaux, c'est-à-dire 6. Et en fait, sur ces 16% principalement, il y en a un certain nombre qui vont dégénérer pendant la seconde semaine. Alors les cas d'anormalité, on en a parlé, c'est la dyspermie, donc deux spermatozoïdes qui vont féconder un ovule, ça donnera 69 chromosomes, ou bien des gamètes anormaux, à savoir qu'il y aura un nombre atypique de chromosomes dans le spermatozoïde ou dans l'ovule. Et on arrive au stade didermique.
C'est variable, hein. On ne peut pas faire une règle fixe au niveau des dates. Le stade didermique, on le considère arrivé à peu près au 8e jour, 7-8e jour. C'est à peu près le moment où le blastocyste donc va s'implanter, va commencer à effleurer la paroi de l'utérus, donc qui est extrêmement vascularisée, et qui va commencer à s'implanter et s'enfoncer dans la paroi utérine. Donc le blastocyste, à ce moment-là, il va avoir un peu cet aspect-là. Donc il y aura une couche cellulaire en périphérie. Donc c'est une sphère, hein, avec une couche cellulaire en périphérie qu'on appelle le trophoblaste. Et puis un bouton embryonnaire qui est constitué de cellules, d'un grand nombre de cellules. Et là, on a déjà une cavité. Hein, une cavité. Et petit à petit, au fur et à mesure, donc on va avoir les divisions cellulaires vont se poursuivre. Et au sein de ce bouton embryonnaire, on va avoir apparition d'une deuxième cavité. Petit à petit, les cellules vont s'écarter. Et ça va donner petit à petit ce qu'on appellera plus tard la cavité amniotique. Hein, la cavité amniotique, c'est ce qui est, enfin, qui, dans lequel sera l'amnios. C'est le milieu dans lequel va baigner l'embryon, puis le fœtus, jusqu'à la naissance. Donc c'est son milieu ambiant jusqu'à la naissance. Alors, donc en fait, au 8e jour, on va avoir donc le stade didermique, c'est-à-dire qu'on va avoir une couche, je simplifie bien sûr, on va avoir une couche cellulaire comme ceci, une deuxième en dessous, et au-dessus, donc la cavité amniotique qui va se situer ici, une couche cellulaire qui est donc l'ectoblaste, alors ça c'est des termes, hein, qui s'appellent donc l'ectoblaste, en dessous on va avoir l'entoblaste, Et là, on aura le lécitocel primaire. Alors ça, c'est des termes, hein, c'est des termes biologiques, hein, je crois qu'on ne peut pas les... Hein, donc c'est des termes qu'il faut retenir. Voilà donc au huitième jour ce qui se passe. Et la paroi utérine, donc on peut schématiser la paroi utérine à cet endroit-là. Et le blastocyste va avoir un mouvement de migration vers l'intérieur de la. Dans l'épaisseur de la paroi utérine. Il va petit à petit s'enfoncer. Alors, donc au neuvième jour. On va avoir donc les divisions cellulaires vont se poursuivre et petit à petit on va avoir cette cavité qui va un peu se modifier. Alors je ne peux pas vous expliquer exactement comment parce que ce serait trop complexe, qui va donner une autre cavité qu'on va appeler la vésicule vitelline primaire. Bon, parce qu'il y en aura une seconde, hein, je simplifie. Alors donc le blastocyste va continuer à s'enfoncer et on va arriver au 12-13e jour. Il va être complètement implanté dans la paroi utérine. Il fera simplement une légère bosse. Hein, il sera totalement implanté. Et c'est à ce moment-là, donc 11-12-13e jour, qu'il va y avoir apparition d'une vascularisation. Donc vascularisation, c'est-à-dire de nombreux vaisseaux sanguins vont venir autour du blastocyste. Et petit à petit, il va y avoir apparition de lacunes, c'est-à-dire de poches dans lesquelles il y aura du sang maternel, bien sûr. Et petit à petit, au cours des... Il y a pas un... Voilà. Pardon. On va donc arriver à ce stade-là. Donc la cavité amniotique en haut. Et la vésicule vitelline primaire en bas, avec les deux couches cellulaires, donc l'entoblaste et l'ectoblaste. Et ça va être relié par le pédicule embryonnaire qui va être colonisé petit à petit par du sang maternel. Et c'est à ce niveau-là que va se former petit à petit le futur cordon ombilical qui relie la mère à l'enfant. Enfin, le placenta, enfin la mère à l'enfant par l'intermédiaire du placenta, milieu d'échange entre la mère et l'enfant. Ensuite, donc, on va arriver, là on est quasiment arrivé à début de la troisième semaine. Alors la troisième semaine, ça va être le passage du stade didermique, donc deux couches cellulaires, au stade tridermique. Donc il va y avoir en fait apparition d'une troisième couche cellulaire entre l'ectoblaste et l'entoblaste, qui va s'appeler le mésoblaste, donc au milieu bien sûr, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Ils n'ont pas été très. Ils n'ont pas eu beaucoup d'imagination. Donc, en fait, ça va se faire par une migration. Là, j'ai schématisé donc l'ectoblaste et l'entoblaste en dessous. Et par une migration des cellules de l'ectoblaste, donc des divisions cellulaires, et les cellules vont migrer entre les deux couches cellulaires pour former. Par la suite, un nouveau massif cellulaire, donc le mésoblaste. Alors on va s'arrêter là, rassurez-vous, au niveau des schémas. Bon, alors bien sûr, on a toujours la cavité amniotique au-dessus, hein, et puis la vésicule vitelline primaire avec le pédicule embryonnaire, et puis le trophoblaste au-dessus. Enfin bon, je crois que... Voilà, donc ça c'est le mésoblaste. Alors, à ce niveau-là, donc il va y avoir ce phénomène, ça c'est au cours donc de la troisième semaine. Il va y avoir apparition du mésoblaste et la circulation sanguine qui va augmenter et elle va devenir importante. C'est à ce moment au cours de la troisième semaine qu'il va commencer à y avoir un échange entre la mère et l'embryon de nutriments et de gaz, des échanges gazeux. Oxygène essentiellement et gaz carbonique, bien sûr. Donc ensuite, on va maintenant aller de la troisième à la huitième semaine, avec c'est toute la période, donc c'est jusqu'à la fin de la période embryonnaire, c'est la période de formation des ébauches, puis des futurs organes, principaux organes, bien sûr. Alors, je vais vous donner brièvement ce que chaque couche cellulaire va donner comme type d'organe. Donc, on va commencer par l'ectoblaste. Alors, l'ectoblaste va donner tout ce qui est épiderme et placote sensorielle. Alors, placote sensorielle, c'est le nez, les yeux et puis l'oreille. Hein, c'est tous les organes de sens, bien sûr. Ensuite, le cerveau, tout le système nerveux, la moelle épinière, et puis les crêtes neurales. Donc, les crêtes neurales, c'est les ganglions, tout le système lymphatique. Donc, c'est pas le milieu sanguin, c'est un milieu qui un milieu qui se situe entre les cellules. C'est un milieu d'échange que l'on possède dans le corps humain. Ensuite, les dérivés du mésoblaste, ça va être tous les tissus de soutien, c'est-à-dire les os, les muscles, les cartilages et l'appareil urogénital, c'est-à-dire l'appareil urogénital. Donc, c'est tout ce qui est organes génitaux et tout le système urinaire. Donc, avec le rein, etc. Bon, au niveau des muscles, bien sûr, le cœur fait partie des muscles, puisque le cœur est un muscle. Ensuite, les dérivés de l'entoblaste, ça va être l'appareil respiratoire et tout le tube digestif. Donc, de la bouche hein, jusqu'à l'anus. Alors, il y a aussi la lignée germinale. Alors, ce qu'on appelle la lignée germinale, c'est les cellules sexuelles. Parce qu'il faut savoir que les cellules sexuelles, c'est-à-dire futurs ovocytes ou futurs spermatozoïdes, tout dépend si c'est un garçon ou une fille, sont présents très très tôt dans l'embryon, puisque à la troisième semaine, les cellules germinales se situent, on peut les situer là, à ce niveau-là. Alors, bien sûr, elles ne sont pas matures, hein, c'est évident, mais elles auront une évolution par la suite, une fois que l'enfant sera devenu adulte. Mais elles sont là très très tôt. Alors, c'est des cellules, bien sûr, qui contiendront soit, comme l'expliquait frère Olivier tout à l'heure, soit XX si c'est une fille, soit XY si c'est un garçon. Et alors, ces cellules vont migrer, donc elles sont présentes à partir de la troisième semaine. Elles vont migrer petit à petit dans ce qu'on appelle les crêtes génitales, donc c'est les futurs organes génitaux. Elles vont commencer à migrer vers là, je crois, sixième semaine, par là, oui, c'est ça. Et elles vont induire la formation... Ah, c'est le terme biologique, hein. Elles vont induire donc la formation des organes génitaux, donc la différenciation entre organes génitaux mâles ou femelles. Si c'est XX, ça va être le chromosome X qui va induire la formation des organes génitaux de la femme, ou si c'est un chromosome Y qui va induire les organes génitaux de l'homme. Ensuite, je vais vous donner brièvement un aperçu des tailles de l'embryon entre la cinquième et la huitième semaine. Alors, il faut savoir que c'est des tailles qui sont données entre ce qu'on appelle le vertex et le coccyx. Bon, le coccyx, je pense que tout le monde sait ce que c'est en bas de la colonne vertébrale. Et le vertex, c'est la partie de l'extrémité du crâne. Donc, parce que bon, c'est des mesures qui sont approximatives, bien sûr, hein, puisque ce n'est pas toujours évident de mesurer. Et l'embryon n'a pas toujours la même position, hein, bien sûr. Donc, à la cinquième semaine, il fait 5 à 8 mm. À la sixième semaine, il fait 10 à 14 mm. À la septième semaine, 17 à 22 mm. Et à la huitième semaine, 28 à 30 mm. Voilà. Après, je crois que je vais passer la parole à frère Olivier.
Alors, la période fœtale, donc qui suit la période embryonnaire, va durer 7 mois. Pendant 7 mois, l'embryon va acquérir va devenir, entre guillemets, un être humain. En fait, il va s'humaniser. Au début de la 9e semaine, la tête du fœtus représente la moitié du corps. Au moment de la 10e semaine, l'œil va s'organiser et les cellules de l'oreille vont commencer à se différencier, c'est-à-dire qu'elles vont commencer à se spécialiser. Au moment de la 12e semaine, les poumons ont pris leur forme définitive, même s'ils ne sont pas capables d'assurer une respiration. Et le cerveau commence à acquérir ses structures propres. L'organisation de l'œil est achevée et on voit que le fœtus commence à réagir à ce qu'on appelle les stimuli. Alors les stimuli, c'est une agression. On essaye de le faire réagir et en fait, on s'en est rendu compte beaucoup. Ben, ça a été par les avortements où on voyait que le fœtus avait un mouvement de défense. À la 16e semaine, le visage prend réellement une apparence humaine. Bon, vous pouvez voir sur vos feuilles que, bon, en fait, quand on est de la 10e à la 17e semaine, le visage est beaucoup plus humanisé qu'il ne l'est réellement. Vous voyez, bon, le 44e jour, donc à la 7e semaine, tout en bas à gauche, là, vraiment ce que c'est que la face d'un embryon. À partir de ce moment-là, on peut déterminer de façon extérieure le sexe de l'embryon. Le corps est plus grand que la tête et la plupart des os, qui ne sont à ce moment-là en fait que des cartilages, sont individualisés, c'est-à-dire qu'on peut les reconnaître les uns par rapport aux autres. L'œil et l'oreille et le nez sont proches de leur apparence définitive. Entre la 17e et la 20e semaine, la mère commence à ressentir les mouvements du fœtus en elle. À la 20e semaine, le nez, les cartilages du nez et de l'oreille commencent à se former réellement et il commence à y avoir un début d'ossification pour le nez. Entre la 21e et la 25e semaine, il y a des gains de poids importants et le corps est réellement proportionné. Alors là, après ça, on arrive dans la dernière phase de développement du fœtus, donc de la 21e à la 38e semaine, qui va se caractériser, en fait, les yeux sont achevés. On ne sait pas si à la naissance, le fœtus voit, le nouveau-né voit, parce que quand on lui passe un objet devant les yeux, il ne semble pas le suivre. Entre la 26e et la 29e semaine, les cheveux et la langue sont bien développés. Le système respiratoire est fonctionnel, c'est-à-dire que si l'embryon naît à ce moment-là, le système respiratoire peut commencer à fonctionner et le fœtus sera viable. Ce qui contrôle la respiration et la thermorégulation, c'est-à-dire l'homme est un être homéotherme, c'est-à-dire qui règle sa température. Donc c'est le système nerveux central qui contrôle ça. Et à partir de la 28e semaine, le système nerveux central est mature, donc il pourra réguler et contrôler la respiration et donc la régulation de la température interne. Entre la 30e et la 38e semaine, on a l'achèvement du sens gustatif, donc ça c'est la 32e semaine, et la croissance commence à ralentir. Pendant ce temps-là, l'embryon produit beaucoup de graisse, à peu près 14 grammes par jour. Cette graisse va lui servir à garder sa température quand il sera hors du sein maternel. Le nouveau-né est sourd quand il naît. Et bon, donc la naissance, normalement, a lieu le 266e jour après la fécondation. Donc voilà pour la description du développement du fœtus. Maintenant, frère Alexandre va pouvoir vous parler des jumeaux.
Enfin, les jumeaux, c'est le cas, c'est assez réjouissant, mais je dirais qu'il y a aussi les agents, tout ce qui est. Je vais vous parler aussi de tout ce qui est malformation due à des agents tératogènes ou des malformations génétiques. Alors, et aussi des défauts d'implantation de l'embryon au départ. Alors, en fait, malheureusement, l'œuf, à ce stade-là, c'est encore un œuf, ne s'implante pas toujours là où il faut. Parce qu'en fait, la zone de prédilection de l'implantation se situe donc dans ce triangle-là. Et on peut avoir très souvent des mauvaises implantations qui peuvent. Donc, vous avez l'ovaire qui est là, des implantations qui peuvent se faire au niveau de l'ovaire. Donc l'ovule fécondé va rester sur l'ovaire. Donc ce que ça va donner une grossesse ovarienne qui va... On n'entend pas ? Là, c'est allumé. Là, vous entendez ? Donc ça va donner une grossesse ovarienne qui va arriver forcément à un avortement naturel. Il peut y avoir aussi une implantation. Là, vous avez les anses intestinales, hein, donc l'intestin. Il peut y avoir des implantations jusque dans les anses intestinales. Il peut y en avoir entre les anses intestinales et l'utérus. Et il peut y en avoir aussi dans tout le chemin de la trompe, qui peut aller donc de ce qu'on appelle cette zone-là, c'est la trompe de Fallope, puis après la trompe en elle-même. Alors tous ces cas d'implantation vont aboutir à des avortements avec des ruptures de trompe. Donc alors en général, ces avortements-là ont lieu à peu près au cours du deuxième mois, avec de fortes hémorragies forcément pour la mère. Et aussi, il peut y avoir aussi une implantation à ce niveau-là qui peut arriver à terme, c'est-à-dire que l'enfant naîtra, mais avec de grosses hémorragies pour la mère et des risques importants pour la mère et pour l'enfant aussi, bien sûr. Voilà pour les défauts d'implantation. Ensuite, donc, on va voir les agents tératogènes. Donc, les agents tératogènes, ça va être tous les agents qui... Alors, donc, comme je vous disais, chimiques, des rayons X ou des choses comme ça, toutes les maladies, donc les maladies, en fait, c'est des agents chimiques, bien sûr, qui peuvent avoir un effet soit très handicapant pour l'enfant, létal, très handicapant pour l'enfant, ou des malformations, je dirais, plus bénignes. Alors, si ces agents interviennent dans les deux premières semaines, ils aboutissent soit à la mort de l'œuf, puisqu'on est encore au stade de l'œuf, soit ils n'auront aucun effet sur l'enfant. Enfin, sur l'œuf. Enfin, le futur enfant, pardon. De la troisième à la huitième semaine, ça va être des malformations majeures qui aboutiront à des enfants qui peuvent être très, très handicapés. On peut citer comme exemple, par exemple, une mauvaise fermeture de ce qu'on appelle la gouttière neurale, c'est-à-dire toute la colonne vertébrale avec la moelle épinière qui va du cerveau jusqu'au coccyx. Et ça peut donner des enfants anencéphales, c'est-à-dire sans cerveau, qui bien sûr ne sont pas viables, ils meurent au bout d'un ou deux jours. Et donc voilà, il y a assez impressionnantes. Mais malheureusement, il y a des enfants qui sont tout à fait viables, qui peuvent avoir des gros problèmes pulmonaires, cardiaques, circulatoires, enfin on peut tout imaginer. Alors, de la 9e à la 8e, à la 38e semaine, donc la dernière phase, la phase fœtale, il y aura des malformations qui seront mineures ou des troubles fonctionnels simplement. Alors je vais vous citer un peu les périodes de sensibilité pour les principaux organes. Il faut savoir que la sensibilité est la plus importante au début de formation de l'organe, hein, bien sûr. Donc pour le cœur, c'est de la 3e à la 7e semaine. Pour le système nerveux central, donc tout ce qui est colonne vertébrale ainsi que le cerveau, de la 3e à la 6e semaine. Pour l'oreille, de la 4e, enfin tout le système auditif, de la 4e à la 9e semaine. Pour l'œil, le système visuel, donc de la 4e à la 8e semaine. Pour les membres supérieurs, de la 4e à la 7e semaine. Les membres inférieurs, de la même manière, 4e à 7e semaine. Pour les lèvres, de la 5e à la 6e semaine. Pour les dents, 6e, 8e semaine. Le palais, 6e, 8e semaine, et enfin les organes génitaux, 8e, 9e semaine. Pardon. Donc vous voyez que les organes les plus vitaux se forment le plus tôt que les autres. Le cœur, le système nerveux, les organes sensoriels, puis après on va, sur des organes beaucoup plus, moins complexes au niveau formation, donc qui demandent moins de temps, bien sûr. Alors maintenant on va voir les malformations donc dues à des anomalies génétiques. Alors c'est juste pour vous les citer. Deux cas qui sont bien connus. Le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de Turner, qui en fait c'est ce qu'on appelle un peu le syndrome de la superfemme entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle va posséder trois chromosomes X. Au lieu d'en posséder que deux, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant la différenciation des cellules sexuelles, donc, c'est-à-dire du futur ovule, il n'y aura pas, c'est-à-dire que l'ovule, avant d'être fécondé, l'ovule ne possédera qu'un seul chromosome X il possédera un seul chromosome X. Et en fait, cet ovule qui sera fécondé par la suite par un spermatozoïde X en possédera déjà deux, donc ça donnera un troisième. Alors ça donnera, ce sera une femme qui aura une arriération mentale, oui, je crois que c'est comme ça, très très forte, hein, bien sûr. Un autre exemple, donc là c'est le super-homme. Donc deux chromosomes Y, même phénomène en fait, hein, ça s'explique de la même manière. Et alors là, ça donnera un individu très violent, très agressif, même très très dangereux. Hein, c'est malheureusement des personnes qui sont tout à fait viables et qui vivent, et alors qui sont la plupart du temps enfermées pour des raisons, enfin essentiellement pour le super homme là. Enfin voilà, c'est dû à des problèmes au niveau de la formation des cellules sexuelles, donc au sein du père ou au sein du futur père ou de la future mère, bien sûr. Alors enfin, pour terminer sur les jumeaux, alors il y a deux types de jumeaux. Il y a ce qu'on appelle les vrais jumeaux et les faux jumeaux. Les vrais jumeaux, on peut considérer que c'est comme deux frères et sœurs. La seule différence, c'est qu'ils ont... Alors, je vais vous expliquer l'origine. Il se trouve que certaines femmes peuvent avoir des ovulations en même temps, c'est-à-dire avoir deux ovules prêts à être fécondés en même temps. Et à ce moment-là, il peut y avoir fécondation des deux ovules en même temps, au même moment. Et même, je dirais, des cas où, en lisant des articles, on a même vu des cas où il y avait un ovule qui avait été fécondé par un père et l'autre qui avait été fécondé par un autre père. Bon. C'est arrivé, hein. Il y en a qui sont forts, mais bon. Donc, la seule différence par rapport à deux frères et sœurs, c'est qu'ils sont dans le sein maternel au même moment, donc on peut comprendre qu'ils aient peut-être des points en commun un peu plus importants, mais il peut y avoir un garçon et une fille. Il y a une autre chose qu'il faut citer, c'est que parfois, il y a une nutrition qui se fait, une nutrition de l'un des deux enfants, on dépend de l'autre, ce qui fait qu'il y a un enfant qui est un peu plus petit que l'autre. Hein, ça peut arriver. Et c'est ce qu'on constate souvent, c'est que dans les jumeaux, il y a souvent un qui est plus costaud, qui domine un petit peu l'autre, hein, souvent. Ensuite, on va voir, donc ça c'est le cas, ce qu'on appelle le cas des dizygotes, hein, c'est-à-dire deux génomes différents. Ensuite, on va voir le cas des homozygotes. Donc c'est le génome, c'est-à-dire même génome, c'est ça que ça veut dire. Hein. Alors en fait, ça s'explique de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va avoir la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Donc, on va avoir au départ, au moment de la fécondation, une cellule, c'est-à-dire avec 46 chromosomes. Il va y avoir la première division cellulaire, donc avec les deux noyaux. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir individuation des deux futurs enfants. C'est-à-dire qu'il va y avoir séparation, puisque les deux cellules sont capables de donner un être. Jusqu'à 64 cellules. Donc il va y avoir formation de deux individus identiques au niveau génétique, c'est-à-dire qu'ils auront le même potentiel, le même patrimoine génétique. Ils auront en commun, ils auront le même placenta. Pas que je dise de bêtises, oui c'est ça. Non, ils auront chacun un placenta. Donc ils ont simplement le génome en commun, le même génome en commun. Ensuite, on a un autre stade plus tard, ce sera au stade blastocyste du bouton embryonnaire. Donc, les divisions cellulaires vont se poursuivre. Et au stade bouton embryonnaire, c'est-à-dire qu'en fait, on schématise ça comme ça, donc là, c'est un massif de cellulaires, là, il y a la cavité du lécytocèle primaire, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir division et formation de deux individus différents. Toujours pareil, ils auront le même génome, bien sûr. Et ils auront le même placenta, mais un amnios différent. Hein, cavité amniotique, c'est-à-dire qu'en fait, on va arriver à une situation comme ça. On va avoir deux choses comme ça. Et il va y avoir une cavité amniotique qui va se former là et une cavité amniotique qui va se former là. Et enfin, on peut avoir encore une troisième possibilité de séparation des jumeaux, encore à un stade beaucoup plus tard, au stade didermique, donc de, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et à ce moment-là, ils auront même amnios, même placenta et même chorion. Alors le chorion, c'est encore une membrane interne. Donc c'est vraiment, les deux enfants baigneront dans le milieu, ils seront vraiment dans le même milieu. Ils pourront, je dirais, presque se serrer la main, enfin, ils peuvent prêter le pouce, enfin, échanger. Ils sont vraiment en communication pendant les 9 mois. Et enfin, il peut y avoir des divisions encore plus tard, au moment où les cellules, justement, ne sont plus totipotentes, c'est-à-dire que où il commence à y avoir formation des organes, et c'est à ce moment-là qu'on a aussi des cas de monstres, ce qu'on appelle les cas de monstres doubles. Alors, je vais vous citer brièvement. Alors, ça peut donner des enfants qui ont des enfants qui sont attachés. C'est le cas des siamois, c'est ce qu'on appelle les siamois, qui sont attachés par le thorax. Alors, c'est ce qu'on appelle là les thoracopages. Par le bassin, les pygopages. Alors, par le bassin, ça peut être soit par. Ils se tournent le dos, enfin, il y a toutes les positions possibles. Le céphalopage, c'est-à-dire par le crâne. Céphalothoracopage, c'est-à-dire par le crâne et par le thorax. Alors, tous ces cas-là peuvent être séparés chirurgicalement quand il n'y a pas des. Justement, on peut imaginer le mec, ils ont un cerveau en commun, alors là, bah, pas grand-chose à faire. Quand les organes sont bien différenciés et c'est juste, je dirais, un lien par les téguments, enfin par la peau ou par les. Là, ça pose aucun problème de les séparer. Mais parfois, c'est des phénomènes très, très. Enfin, des problèmes très, très délicats à traiter, bien sûr. Enfin, il y a ce qu'on appelle duplicata antérieure, c'est-à-dire la fusion des deux. Par exemple, toute la partie inférieure. Alors, on peut imaginer des jumeaux qui auront deux têtes. Et puis ensuite, il peut y avoir 4 bras, comme ça. Et puis que 2 jambes. Et c'est un cas qui existe. Hein. Alors, on peut imaginer ça, on peut imaginer 2 têtes, 2 bras, 2 jambes. Enfin bon, on peut tout imaginer. Et enfin, ce qu'on appelle les jumeaux parasites. Alors je vais vous citer pour. C'est pas très réjouissant, mais enfin bon. Ça existe. C'est-à-dire qu'on a un jumeau. Alors je dessine comme un. Comme je sais pas quoi. La tête, voilà. Les bras. Les jambes. Et on peut avoir. C'est le deuxième jumeau qui sera greffé au niveau du thorax, c'est-à-dire qu'on aura, un thorax avec les jambes, comme ça, ou qui sera greffé au niveau du bassin. Enfin, il y a des cas, c'est arrivé des cas comme ça. Alors, et ils sont viables. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour vivre, quoi. Ils ont des poumons, un cœur, enfin tout, quoi. Voilà, je vais laisser la parole à frère Olivier. J'espère qu'il vous dira des choses plus. Pour la conclusion.
En fait, bon, pour critiquer un peu la façon du biologiste d'observer.
Pardon.
Il faut savoir que la plupart des observations ont d'abord été faites à partir de l'embryon de grenouille, de poule, d'oursin. Et à partir de ça, le biologiste a fait une analogie. Après ça, il y a eu une observation qui a été faite à partir des avortements naturels, donc d'embryons humains, et aussi les avortements provoqués ont permis aux biologistes d'affiner ces connaissances. Mais après ça, on voit que l'échographie, et puis la mise au point de la fibre optique qui permettait de poser une caméra intra-utérine, a permis de voir la conformité entre la spéculation, le modèle qui avait été construit par le biologiste à partir des embryons de têtards, de poules et d'oursins, et ce qui se passait donc dans le cas de l'homme. Et en fait, Le biologiste, quand il regarde globalement toute la croissance, quand il ne regarde pas uniquement l'ADN, il reste toujours émerveillé de voir la régularité, la précision de la construction d'un être humain. Parce que l'être humain, c'est quand même l'être le plus complexe. Et des 16% d'enfants anormaux qu'il y avait au moment de la fécondation, on voit qu'au moment de la naissance, il n'y en a plus que 1%, 1 ou 2%. Donc en fait, on voit que la nature humaine est extrêmement bien réglée pour